frères et sœurs, là où vous êtes. J'espère que votre semaine a été bonne. Ici, à Clermont, Florida, il fait beau, il y a du beau soleil. Cette semaine, on a enregistré de la pluie qui était bonne pour la terre, qui était vraiment rafraîchissante et qui nous a permis de bien dormir, de bien reposer, surtout quand la pluie tombe le soir pendant la nuit. J'aime bien ça. Bon, chers frères et sœurs, comme vous l'avez entendu dans les annonces, et la Pâque est dans quelques jours. Nous allons commémorer la Pâque dans quelques jours. Et c'est vraiment intéressant que je n'avais pas choisi la sermonnette ou encore l'émission de M. Weston qui parle de la Pâque. Ça, comme il l'a bien souligné, c'est la première fête. Ça, on peut dire que ça donne le coup d'envoi des fêtes annuelles. Et la Pâque sera dans 12 jours. L'Église de Dieu à travers le monde se réunira pour manger la Pâque. Chers frères et sœurs, ça, c'est l'événement le plus important de l'année pour les membres de l'Église de Dieu. C'est une occasion pour nous de renouveler notre engagement à Dieu, l'engagement que nous avions pris lors de notre baptême, d'abandonner notre vie pécheresse, notre vie antérieure, et de vivre selon tous les commandements de Dieu. De vivre non seulement du pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin dans mon sermon, j'aimerais prendre un peu de temps pour voir comment devons-nous comporter, comment devons-nous agir et comment devons-nous préparer avant de prendre la Pâque. Comment nous préparer pour cet événement. Si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon ce matin, Christ, notre agneau pascal. Si vous voulez, Jésus-Christ est notre vrai agneau pascal. Nous portons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 11 et nous allons lire les versets 23 à 31. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 23, l'apôtre Paul qui parle, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, verset 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 20, verset 31. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Chers frères et sœurs, c'est sérieux. C'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut badiner avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe comment. L'apôtre Paul a pris son temps et il nous a dit, nous devons nous examiner. Il ne nous demande pas d'examiner nos frères et sœurs dans l'église. Il ne nous demande pas à examiner notre époux ou notre épouse, nos amis, nos voisins. Mais chacun de nous, chers frères et sœurs, a cette responsabilité, a la responsabilité de s'examiner lui-même avant de manger la pâte, avant de prendre la pâte. Et il a dit ici que si on mange ou on boit, si on mange ce vin, ce pain et on boit le vin sans discerner le corps du Seigneur, on mange et boit un jugement contre soi-même. Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons prendre du temps pour nous examiner avant le 14 avril, avant même de nous présenter pour manger, pour prendre la pâte. La plupart du temps, il y a des gens qui disent « Ah bon, je ne suis pas digne de prendre la pâte. » Ce n'est pas une question d'être digne. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas que nous devons être dignes, mais nous devons manger la pâte, prendre la pâte d'une manière digne. Et pour nous aider, chers frères et sœurs, nous devons chercher à comprendre ce qu'est la pâte. Pourquoi nous prenons la pâte? Quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Comme je vous ai dit au début du sermon, c'est un moment pour nous chrétiens, pour nous membres de l'Église, de réfléchir sur nous-mêmes, de réfléchir et évaluer notre relation avec Dieu. Dans le passé, je vous ai donné un sermon qui avait pour titre notre bilan spirituel. Chers frères et sœurs, à ce moment-là, c'est un moment de vérifier notre bilan spirituel pour savoir où nous sommes, pour savoir est-ce que vraiment, durant l'année dernière, durant les deux dernières années, durant les trois dernières années, les quatre dernières années, ou même pendant, lorsque nous étions été appelés dans l'Église, lorsque nous apprenions la vérité, pour savoir où nous sommes, est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'on est plus proche de Dieu? Il y a beaucoup de choses qui se disent, maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, nous sommes proches de la grande tribulation ». Il y a beaucoup d'écrits, il y a des personnes qui sont vraiment enthousiastes à propos des prophéties. Chers frères et sœurs, une chose est certaine. Il n'y a pas question de si les choses, la tribulation va arriver demain ou après demain. L'essentiel, c'est d'avoir une relation étroite avec Dieu, notre Père. Est-ce que Dieu prend plaisir en nous? Est-ce que Dieu prend plaisir en ce que nous faisons, la façon dont nous pensons, les propos que nous proférons? Nos expressions. Chers frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Et voilà pourquoi, quand nous essayons de nous examiner, c'est pas que on peut s'asseoir et dire, bon, ok, voyons, ok, je suis prêt. S'examiner, je dis, chers frères et sœurs, d'aller au Dieu lui-même, notre Père Céleste, de lui demander d'ouvrir nos yeux, de nous aider à comprendre nos faiblesses, aller voir, avoir nos fautes et nous aider à nous repentir. À nous repentir et à avoir une attitude de lui demander de nous aider dans nos faiblesses, de nous donner la force que donne son Esprit Saint, d'augmenter notre foi. L'apôtre a demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Nous devons rester humbles et nous devons chercher, chers frères et sœurs, à nous pardonner les uns les autres, à ne pas justifier nos faiblesses, à ne pas justifier nos fautes. Ces frères et sœurs, c'est vraiment important pour nous de voir comment Dieu, lorsque Dieu a parlé à Moïse, et l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire encore vivante pour vous, c'est une histoire vivante pour moi. Nous qui sommes membres de l'Église de Dieu. Le peuple d'Israël souffrait de la servitude dans la servitude en Égypte. Comme nous l'avons entendu dans l'émission de M. Weston, c'est que le peuple était en servitude, était dans l'esclavage. Et Dieu a envoyé Moïse pour diriger le peuple vers la terre promise. Et vous savez toute l'histoire, c'est une longue histoire, mais une histoire assez fascinante. Et je dois vous dire que l'Égypte est un prototype du monde où nous sommes, notre société. Quand nous étions dans le monde, avant notre appel, nous étions dans l'esclavage. Nous vivions dans l'esclavage. Et Pharaon, un prototype de Satan, le même Lucifer. Comme je vous ai dit déjà dans plusieurs de mes sermons, avant la chute de Lucifer, il n'y avait pas de péché. Le péché n'existait pas. Mais Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il a laissé l'orgueil de remplir son cœur. Et il est devenu Satan, le diable. Et maintenant, Satan prend son temps. Il est très occupé 24 heures sur 24. Il ne dort pas. Il n'est jamais lassé de nous tenter, de chercher à nous induire dans l'erreur. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons avoir un cœur humble, de savoir que nous sommes qui, quoi, qui nous sommes. Nous sommes pécheurs, nous sommes tous péchés. Et parce que, chers frères et sœurs, nous sommes encore dans le monde, nous vivons encore dans le monde, et Dieu nous a appelés hors de ce monde, hors d'Égypte. Malheureusement, comme le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, le peuple d'Israël a laissé l'Égypte physique. Mais le peuple d'Israël a emporté l'Égypte dans leur cœur. Et c'est ainsi que vous et moi, même en, nous pouvons dire que nous avons laissé le monde et nous a appelés pour sortir du monde, mais dans notre cœur, nous avons encore une partie du monde en nous. Et parfois, nous chérissons même des choses de ce monde. Comme le peuple d'Israël, vous vous rappelez, à un moment, le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte. Il s'apitoyait sur eux-mêmes parce qu'il pensait, il disait que oui, quand nous étions en Égypte, nous avons du lentille, nous avons beaucoup à manger, nous avons tellement de choses. Mais le peuple d'Israël, à ce moment-là, ne s'est pas souvenu de l'esclavage, la misère qu'il confrontait. Et Dieu a fait beaucoup de miracles avant la sortie, le départ du peuple d'Israël pour la terre promise. Et reprenons-nous, chers frères et sœurs, à le livre de l'Exode, pour voir comment cela s'est passé, l'institution de la Pâque, la première fois que le peuple d'Israël a commémoré la Pâque. Et c'est très intéressant, et pas seulement intéressant, mais c'est très important pour nous, chers frères et sœurs, de lire et de bien comprendre ces choses-là. Reportons-nous à Exode au chapitre 12 et nous allons lire les versets 1 à 7. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est précisément pour voir que ce sont des instructions précises que Dieu a données à Moïse et à Aaron et que le peuple devrait suivre. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous savez, il faut voir, c'est pas quelque chose que Dieu n'a pas de demander aux Israélites de faire ce qu'ils voulaient. Et Dieu n'a pas dit aux Israélites, ok, voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Mais Dieu a donné des instructions précises à Moïse et à Aaron. Et le peuple devait suivre ces instructions. Au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le temps est vraiment important. Et nous allons le voir. C'est que Dieu, c'est Dieu qui a choisi le jour, l'heure et tout. En ce qui a trait à cette commémoration, ce n'est pas quelque chose que bon, les gens d'Israël pouvaient faire à leur gré. Et le temps, l'heure, le jour, le 14e jour de ce mois, le premier mois de l'année, entre les deux soirs. Et pour bien comprendre, et la signification de ce mot entre les deux soirs, parce qu'il y a des gens qui sont un peu confus. Entre les deux soirs, c'est la tombée du jour et le commencement de notre jour. Ça, c'est entre les deux soirs. Parce que selon la Bible, ici, comme on peut le voir, c'est que le jour commence au coucher du soleil, du jour antérieur. Ici. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce qui explique que c'est avant le coucher du soleil du jour précédent, et maintenant le 14e jour qui commence. Et à ce moment-là que les Israélites devaient immoler cet agneau. Et au verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu, On la mange avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli et bouilli dans l'eau. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Chers frères et sœurs, ce qui est vraiment important pour nous dans l'Église, membres de l'Église de Dieu, c'est que nous devons avoir cette attitude d'agir selon les instructions que Dieu nous donne. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir comment, pourquoi. Nous devons nous reposer complètement, nous devons avoir pleine confiance en Dieu. Dieu est le maître, c'est lui qui est le capitaine du bateau. Nous nous confions à lui et maintenant, ça va. Et posez-vous la question, si les gens, le peuple d'Israël, maintenant se posent des questions, pourquoi je dois prendre du sang de l'agneau et mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte? Parce que pour moi, il n'y a pas de sens. Ça, quelle image de prendre du sang, de bajonner et sa porte avec du sang. Et pourquoi je dois me mettre mes souliers aux pieds avant le bâton à la main? Chers frères et sœurs, nous devons, Dieu prend plaisir à l'obéissance et il nous demande de nous obéir. Et voilà pourquoi nous devons prendre du temps pour savoir est-ce que nous sommes obéissants à Dieu. Avons-nous vraiment la crainte de Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans au verset 13, de ce même chapitre, Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de Dieu. C'est ici vient le mot Passover. En anglais, nous ne disons pas Pâques, mais nous disons Passover. Passer au-dessus. Et Dieu a donné à Dieu, peuple d'Israël, de mettre le sang sur le porte, et ça va être un signe. Reportons-nous maintenant au même chapitre, Exode 12, nous sommes les versets 24 à 27. Exode, chapitre 12, verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants et à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez ce tisage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous ce tisage, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Ce n'est pas une fête qu'on peut choisir de célébrer une fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, maintenant, puisque j'ai observé la Pâque l'année dernière, Bon, maintenant, j'ai plus besoin de garder cette fête. Et voilà pourquoi, chers et sœurs, comme je vous ai dit, c'est très sérieux. Nous devons mettre du temps. Nous devons nous préparer, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Si vous avez un emploi, vous travaillez dans un bureau, quelque part, vous devez prendre du temps, vous devez chercher à demander du congé à prendre ce jour, comme un jour de congé, afin que vous puissiez avoir du temps pour prendre la Pâque, manger la Pâque. Parce qu'il y a des gens qui travaillent même la nuit, et il y a des gens qui travaillent très tard, pendant le jour, mais vous savez que la Pâque commence au coucher du soleil, et pour cette année, ce soir au coucher du soleil, de ce mois, le 14 de ce mois. Chers frères et sœurs, comme je vous ai dit que Dieu nous a appelés et dans le hors du monde, et nous avons pris l'engagement de nous faire baptiser. Et vous savez que le baptême symbolise la mort et la résurrection. Quand nous sommes immergés dans l'eau, c'est le symbole de que nous sommes morts qui a fait du péché, du monde, et nous sommes sortis de l'eau, ça c'est la résurrection, une nouvelle vie en Christ. À partir de ce jour, chers frères et sœurs, et pour le reste de notre vie, nous appartenons à Dieu, car nous avons été achetés à un prix. Veuillez vous porter à 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 20. À 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 20. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas. Parfois, on pense que on prend des décisions. On dit c'est ma décision. Toutes nos décisions doivent venir de Dieu, parce que nous ne sommes pas de. Nous sommes une nouvelle créature, nous appartenons à Dieu. Et parfois c'est difficile, même cette idée d'appartenir à Dieu est difficile à imaginer. Parce que nous sommes des pécheurs, comme nous l'avions entendu ce matin dans l'émission de M. Weston. Nous sommes tous des pécheurs. Veuillez vous porter à Romains au chapitre 3, verset 23. Et cela nous permet, chers frères et sœurs, de comprendre bien le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Romains au chapitre 3, verset 23, un verset que vous connaissez tous par cœur, j'espère. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il ne dit pas que quelques-uns ont péché. Tous ont péché, inclus vous et moi. Parfois, nous cherchons à justifier nos péchés. Nous cherchons toutes les petites bêtes. Parce que pour certaines religions de ce monde, il n'y a que deux péchés, peut-être même trois péchés. Le premier, c'est meurtre. Si on commet une meurtre, c'est un péché, un grand péché. Quelqu'un qui commet l'adultère, ou peut-être l'avortement, mais les gens ont cette tendance à minimiser certains péchés. Ah bon, oui, ça, c'est pas grave. Quand on ment, ah, c'est pas grave. Chers frères et sœurs, vous et moi, Dieu nous a demandé de ne pas pratiquer le péché, de ne pas pratiquer le péché sous n'importe quelle forme, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Mais malheureusement, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour payer à votre place l'amende du péché, qui est la mort. Maintenant, on peut se demander, que suis-je que l'on fasse, que l'on me fasse ainsi dans l'honneur? C'est comme, chers frères et sœurs, c'est se réveiller d'un rêve qui est devenu une réalité. Parce que, avec la mort de Jésus-Christ, nous pouvons avoir accès maintenant à la vie éternelle. Dieu nous a donné trois grandes promesses. La première, c'est de vivre éternellement. La deuxième promesse, c'est de prendre naissance dans sa famille. Et la troisième promesse, c'est de diriger, de gouverner le monde avec son Fils Jésus-Christ. Non seulement de gouverner le monde, mais aussi d'héritier toutes choses avec Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère aîné. C'est parce que la seule pensée que nous appartenons au plus grand et au plus puissant de l'univers entier est difficile à croire. Notre Père Céleste a permis son Fils bien-aimé de faire le sacrifice ultime en notre nom. Le sacrifice de Jésus-Christ a permis maintenant et pour toujours aux futurs membres de sa famille de se préparer à rejoindre la famille de Dieu et d'enseigner un jour à toutes les nations sous son autorité. Frères, chers frères et sœurs, il est important que chaque membre baptisé de l'Église commence à se préparer pour observer la Pâque. Et non seulement la Pâque, mais aussi les jours des pains sans levain. Pour honorer Dieu et pour montrer notre reconnaissance pour le grand sacrifice que son Fils Jésus-Christ a fait en notre nom. Nous portons à Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, nous allons lire les versets 13 et 14. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est lui, comme nous pouvons lire dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1. L'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 7. Jean au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient de servir de témoin pour un témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Et verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils né du Père. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas à chercher à des arguments, il faut jeter tout argument qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ a été créé. Non. Jésus-Christ était là au début avec son Père, mais le Christ était venu, il a participé comme nous, il a participé dans la chair et le sang, et maintenant il est notre modèle. Nous devons avoir le but, notre but devait être de devenir comme Jésus-Christ. Nous devons pratiquer sa justice, nous devons chercher à l'imiter en toutes choses. Et nous devons aussi apprécier le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et comme il a dit ici, c'est le Christ nous a délivré la puissance des ténèbres. Vous savez, comme le peuple d'Israël avant d'atteindre la terre promise, ils ont passé 40 ans dans le désert. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous vivons dans un désert spirituel. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Et nous devons vivre comme si nous étions des pèlerins, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est le désir spirituel. Mais Jésus-Christ est venu et son sacrifice nous donne l'occasion d'être pardonné de nos péchés et d'être réconciliés avec Dieu. Nous continuons à Hébreux au chapitre 9, verset 22. Hébreux au chapitre 9, verset 22. Vous avez vu comment le peuple d'Israël a été délivré par la dixième plaie. Et ils ont été épargnés parce qu'ils avaient le sang sur leur porte, sur leur manteau. Imaginez-vous, si quelqu'un a pris la décision de ne pas suivre les recommandations de Moïse, les instructions de Moïse, de dire, ah bon, moi, cela m'est égal, je ne veux pas mettre du sang sur ma porte, sur les linteaux de ma porte. Bon, imaginez ceci. Mais Dieu nous a demandé d'être obéissants, de ne pas avoir la tête têtue, la tête dure, comme on dit. Et nous portons à Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est qu'il faut qu'il y ait effusion de sang. Et le Christ a donné son sang. Il a répandu son sang pour nous. Afin que nous soyons purs. Afin que nous pouvions être lavés de nos péchés, sans lavés de nos péchés. Avec cela, chers frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons aucune crainte de la mort et de la mort éternelle. Nous continuons à Éphésiens, au chapitre 1. Éphésiens, au chapitre 1, verset 7. Il faut voir que comment appliquer le sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Verset 6 et 7. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Chers frères et sœurs, c'est important pour nous d'examiner ces versets, de comprendre bien ces versets, de comprendre le sacrifice de Jésus. Dieu, comment Jésus a payé sa vie, a donné sa vie pour vous et moi, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Parce que le Christ était parfait, était innocent, il n'avait pas de péché, mais il est devenu pécheur à cause de vous, à cause de moi, comme nous l'avions vu. Jésus-Christ vivait dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Mais avant sa mort, à la veille de sa mort, il était allé vers son papa. Il lui a dit, Père Saint, si c'est possible d'éloigner cette coupe, de m'éloigner cette coupe. Pendant 3 fois, il a prié, il a fait cette même prière. Et à chaque fois, il a conclu, néanmoins pas ma volonté, mais la tienne. Chers frères et sœurs, c'est une attitude que vous et moi devons avoir constamment devant Dieu. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Devant Dieu, chaque jour, à chaque minute, à chaque heure de notre vie, non ma volonté, mais Dieu, ta volonté, que ta volonté soit faite. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les douleurs. Parfois, et même dans l'église, nous avons des gens qui ont été peut-être martyrisés, quelqu'un l'a fait du tort. Mais Dieu nous a dit de pardonner aux autres, pardonner, d'aimer nos ennemis. Même si on nous fait du tort, même si on nous fait du mal, même quand cela blesse peut-être notre ego, ça a blessé notre dignité, mais nous devons penser à pardonner. À laisser tout à Dieu, parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus-Christ, comme je vous ai dit, était parfaitement conscient du sacrifice qu'il aurait à faire. Il a passé les dernières heures de sa vie humaine sur terre, battu, méprisé et rejeté par l'humanité, et finalement cloué sur la croix et laissé pour mort. Il a pris sur lui, enduré les terribles conséquences de chaque péché que le reste de l'humanité avait commis. Veuillez vous porter à Ésaïe au chapitre 53. Nous portons à Ésaïe, au chapitre 53. Ésaïe vient avant Jérémie. Au chapitre 53, nous allons lire les versets 3 à 5. Ésaïe 53, verset 3. Maintenant, il passe, c'est une prophétie qui est appelée à Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus-Christ, notre frère aîné, a souffert pour nous. Il a souffert, il a donné sa vie. Commençons pour nos péchés. Et nous sommes purifiés et nous sommes lavés. Et maintenant, nous avons une place. Une place, et nous sommes, maintenant, nous disons que nous sommes les prémices de ce que Dieu est en train de travailler avec. Vous savez, chers frères et sœurs, comme au départ du sermon, la Pâque, avec la Pâque, on donne le coup d'envoi des fêtes annuelles. Vous savez, les fêtes de Dieu sont les plans de Dieu pour l'humanité, pour toute l'humanité, pas seulement pour nous qui sommes les prémices, mais aussi pour le monde entier. Et le Christ, malgré sa position, malgré que son papa l'a aimé beaucoup, comme nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Matthieu chapitre 3, verset 17, c'est Dieu le Père qui parle à propos de son fils. Et Matthieu chapitre 3, verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a aimé son fils, Dieu le Père. Imaginez, vous, Père, que vous avez votre fils, vous voyez votre fils, on est en train de battre votre fils, on est en train de cracher à son visage, de le martyriser. Et c'était pas facile pour Dieu le Père, c'était pas facile de voir son fils qui était avec lui dès le début, mais qui était devenu comme nous, un être humain, afin de participer à notre nature charnelle, de savoir vraiment ce que nous ressentons. Mais comme vous pouvez le constater, il n'était pas nécessaire que Jésus-Christ fasse ce sacrifice ultime et donne sa vie pour lui-même, mais le sacrifice a été fait pour vous et moi et pour toute l'humanité. Veuillez vous porter à Jean au chapitre 3, verset 16, un verset que je sais que vous connaissez tous par cœur, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est que maintenant, nous sommes les prémices, les premiers qui sont appelés, mais après, le jour viendra, que Dieu va appeler tout le monde. C'est ce que nous célébrons lors de la fête des tabernacles, le dernier grand jour de la fête. Il y a la fête des tabernacles qui symbolise le millénium de Dieu. Ça, c'est le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Et le dernier grand jour qui illustre la résurrection, la grande résurrection, et là où tous les hommes, où le monde entier, auront accès à la vérité, à la connaissance de Dieu, et Dieu appellera tout le monde. Et voilà pourquoi. Et nous disons que les fêtes annuelles marquent le plan de Dieu pour toute l'humanité, non seulement pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Mais ça commence avec nous, la Pâque, qui est notre appel, notre repentance, l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Reportons-nous à Romains au chapitre 5. Nous allons lire les versets 6 à 12. Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison d'amour. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Chers frères et sœurs, c'est important pour nous, pendant que nous nous examinons, de savoir que nous ne sommes pas justes. Personne d'entre nous est juste. Personne d'entre nous est parfait. C'est le Christ qui a payé l'amende de notre péché. Bon, l'amende de nos péchés. Et si nous devons nous pardonner réciproquement, parfois nous avons cette tendance de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et quand quelqu'un nous fait du tort, on ne veut pas les pardonner. On ne veut pas parce que maintenant, je sens que mon orgueil a été blessé et ma dignité a été affectée. Mais le Christ n'est pas tenu compte de ces choses. Il est venu et il a été maltraité à cause de vous, à cause de moi. Reportons-nous à Ésaïe au chapitre 52, verset 14. Ésaïe, chapitre 52, verset 14. De même que beaucoup ont été étonnés de toi, son visage a donc été plus marqué que celui de n'importe quel homme et sa forme plus que celle des fils de l'homme. C'était Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre au chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures, duquel vous avez été guéri. Jésus-Christ est notre grand frère, notre frère aîné, mais c'est aussi notre grand prêtre. Il a été tenté comme nous, mais il était irréprochable. Il n'a jamais commis de péché. Nous donnons ainsi l'exemple à suivre. Reportons-nous à Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous ne devons pas chercher à justifier nos péchés. Nous ne devons pas chercher à justifier nos faiblesses. Et parfois, nous pensons que, bon, les autres gens pêchent. Les autres gens, parfois, on parle des gens de ce monde. On dit, bon, ok, ceux du dehors, tout cherchant à nous justifier. Nous n'avons rien à justifier, parce que vous et moi, chers frères, nous sommes pécheurs, et notre salaire, c'est la mort. Et le Christ a pris du temps pour pardonner aux autres. Il a pris du temps et pour pardonner à ses ennemis. Nous portons maintenant à Romains au chapitre 5, verset 8 à 10. Romains, chapitre 5. Verset 8. Mais Dieu, pour son amour envers nous, En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et c'est Dieu qui nous a appelés, et Dieu nous a appelés pour avoir la vie éternelle. Et comment nous pouvons le voir? Dieu a beaucoup à dire sur le péché, alors que nous nous préparons pour prendre la Pâque. Nous devons également nous préparer pour les jours des pains sans levain. Les jours des pains sans levain, ou la fête des pains sans levain, qui représente le fait d'éliminer le péché de notre vie. Et qu'est-ce que cette chose qu'on appelle le péché? Qu'est-ce que le péché? Parfois les gens ne savent pas, mais péché, c'est quoi le péché? Veuillez vous porter à 1 Jean au chapitre 3, verset 4. 1 Jean au chapitre 3, verset 4. Si vous avez besoin de savoir ce qu'est le péché, la Bible est très claire. Dans 1 Jean au chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ici, il y a une différence, chers frères et sœurs. Il faut bien savoir que nous sommes pécheurs. Nous péchons. Mais lorsque nous péchons, nous savons que nous avons transgressé la loi de Dieu. Et nous avons cette attitude humble d'aller vers Dieu et de lui demander de nous pardonner. Mais vous et moi, nous ne devons pas pratiquer le péché. Il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Selon ici, quiconque demeure en lui, lorsque vous avez été baptisé, vous avez renoncé à votre vie antérieure, vous avez pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Vous avez été baptisé. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de chance. Il n'y a pas une deuxième chance. Il n'y aura pas une deuxième opportunité. Parce que si vous vivez dans le péché, si vous pratiquez le péché, si vous rébellez contre les commandements de Dieu, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché parce que vous sacrifiez le Christ, vous exposez le Christ à l'ignominie. Et, chers frères et sœurs, comme tout Père aimant, Dieu est responsable des effets destructeurs et nuisibles du péché. Il est important que nous passions du temps sur ce sujet, que nous nous préparons pour les jours saints à venir. Et la question que j'ai pour vous ce matin, haïssez-vous le péché? Haïssez-vous ce que le péché vous présente? Lorsque vous regardez autour de vous, le monde, ce qui se passe, la souffrance, les misères de ce monde, tout ce qui se passe, et les hommes ne cherchent pas Dieu. Maintenant, partout où nous vivons, nous voyons la haine, la destruction. Et Dieu nous dit que il va très prochainement, il va démontrer sa colère envers l'humanité et à cause de l'injustice, à cause de ce qui se passe. Dieu, vous et moi, chers frères, nous devons prendre du temps pendant cette époque, avant de prendre la Pâque, de nous examiner, de chercher vraiment, à éliminer le péché et dans notre vie. Reportons-nous maintenant à 1 Jean au chapitre 4, verset 10. 1 Jean au chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu demande de nous. Nous devons exercer l'amour. L'amour envers lui, c'est-à-dire nous soumettre à sa loi, nous soumettre à ses commandements, et de nous aimer les uns comme les autres. Nous devons faire de notre mieux de nous pardonner réciproquement et de vivre selon le mode de vie que Dieu nous a demandé de vivre. Reportons-nous maintenant à 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean au chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et chers frères et sœurs, prenons le temps de nous examiner à l'approche de la Pâque. Apprécions le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en notre nom et l'importance d'éliminer le péché de nos vies, maintenant et pour toujours. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques et aussi bonne fête des jours ou la fête des pains sans levain.